Accès libre.
Bonjour tout le monde, c'est l'heure d'Accès libre. Ici Benoît Racette. Avant de passer au retour de la chronique de Parasport avec Émilie Bouchard-Labonté et de profiter de la nouvelle chronique droit sexuel avec la sexologue Sonia Boucher, on se prépare, bien sûr, pour les élections Montréal 2017. Les deux grandes organisations qui défendent le droit au logement, que sont le FRAPRU, le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, le conjuguent de plus en plus avec l'accessibilité universelle, c'est beaucoup grâce à Execo, et les trois groupes viennent à l'émission Action. Afin de vous aider à mieux comprendre ce qu'offrent les deux principaux partis montréalais sur la question, ou plutôt sur les questions qui vous concernent, on reçoit Émilie Tullier de Projet Montréal et dans quelques instants, Jean-François Parenteau d'Équipe Coderre sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Depuis l'adoption de la politique municipale en accessibilité universelle, la Ville de Montréal a adopté deux plans d'action. Le deuxième plan a été adopté il y a 2 ans, mais va s'étendre, vous comprenez bien, au-delà des élections de cet automne. On a de la suite dans les idées. On va commencer par parler des élections juste avant la fin du plan. Et donc, c'est pour ça qu'on s'adresse d'abord à un représentant de l'administration municipale pour défendre en partie le bilan juste avant le scrutin du 5... Oh, il y avait des KR là-dedans. En tout cas, peu importe. Le 5 novembre prochain. Donc, avec nous, Jean-François Parenteau de l'équipe Coderre, maire d'arrondissement, conseiller associé au comité exécutif et aussi membre du conseil d'administration de la STM. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Cassette.
Très content que vous soyez avec nous.
C'est un plaisir partagé.
Bon, je suis content parce qu'on regarde, on lit votre feuille de route et ce qui manque avant votre aventure politique, c'est que vous êtes lié déjà au monde du handicap.
Bien, en fait, juste précédemment à l'élection de 2013 où que j'ai fait le saut en politique, j'étais propriétaire d'une entreprise que j'ai fermé à l'automne dernier par manque de temps, vu l'implication que j'avais, mais qui était dans l'accessibilité universelle et dans le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. Alors, pendant 14 ans, j'ai œuvré dans le domaine. Alors, j'ai une bonne maîtrise des besoins, puis j'ai une grande sensibilité au niveau de ce sujet.
Oui, on le voit bien. Désolé, j'avais pas envie de raviver... des nouvelles un peu tristes. Je ne savais pas que votre commerce était fermé.
Bien, en fait, c'était le... Ça, bon, là, il est fermé, mais on n'a quand même pas fermé boutique en tant que tel. C'est qu'on a vendu les portions. Il y a des gens qui ont pris la relève ailleurs. Mais moi, je suis plus associé du tout au commerce.
Au commerce en tant que tel. Donc, parlons maintenant de votre arrondissement. Il est souvent cité en exemple pour l'accessibilité universelle. Alors, c'est une bonne idée à Coderre de vous dépêcher comme représentant sur la question de l'accessibilité universelle. Vous avez d'ailleurs apporté des changements à vos règlements pour favoriser la mise en accessibilité universelle des commerces et aussi de d'autres places publiques dans l'arrondissement. Donc, ça a été salué par plusieurs groupes. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'étendre un peu ces changements-là à l'ensemble de la ville? Pas juste dans Verdun, là, les chansons.
Non, mais il y a un côté chauvin, je suis bien fier que ce soit à Verdun. Mais honnêtement, l'impact que chacun des arrondissements, quand un arrondissement fait des bons coups, généralement, c'est repris par d'autres arrondissements, puis on regarde ce que font nos collègues. Effectivement, l'approche qu'on a prise au niveau de l'accessibilité universelle a un impact sur les autres maires d'arrondissement de part et d'autre. Et on m'en parle, on dit « Jean-François, c'est quoi ta politique que vous avez mise en place? » C'est une politique spécifique pour favoriser l'accessibilité universelle puis surtout changer les mentalités.
Oui, c'est le plus grand défi.
Le plus grand défi, puis au niveau comme ambassadeur, je dirais personnel, de l'approche au niveau des entreprises souvent ou des propriétaires d'immeubles, c'est d'amener le réflexe, de leur expliquer que quand c'est planifié, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est du développement qu'on fait. Alors, puis quand les gens le comprennent, puis je suis à même, pour avoir œuvré dans le domaine, je suis à même de faire même le parallèle comptable pour leur dire, ben voici ça, puis voici comment ça fonctionne.
Alors, vous êtes capable de les conseiller très directement.
Ah oui, très directement. Je suis un peu passionné, beaucoup même. Alors, je suis très perspicace en ce domaine.
Bien, vous savez d'ailleurs qu'il a été mis en place, c'était une promesse du maire, il a été mis en place un programme d'accompagnement ou d'aide plutôt à l'accessibilité des commerces. On a déjà reçu ici à l'émission Marc-André Gadouri, un de vos collègues d'équipe Coderre, qui a hésité à en faire la promotion active. En fait, on vous demande, vous là, qui êtes un passionné, comment vous allez faire pour que les autres maires embrassent comme vous cette cause-là et invitent les commerces à profiter de ces subventions-là. Parfois, elles peuvent aller jusqu'à 10 000 $.
Absolument. Puis, par exemple, la promotion de ce fait aussi à travers l'ensemble de la ville. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui en font aussi la promotion dans d'autres arrondissements. Nous, à Verdun spécifiquement, on l'a attaché aussi à un programme PRAM, qui est le programme de revitalisation des artères de Montréal, où quand les propriétaires viennent pour faire une revitalisation de leur commerce ou de leur devanture, on l'exige dans notre dans le programme.
Oui, dans votre cas, vous l'exigez.
Oui, de l'exiger. Ouais. Et quand j'ai amené ça, on travaille avec les services centraux, et les services centraux, ils ont dit « Ah, c'est une très bonne idée ». Alors, tous les programmes PRAM qui sont mises en place à travers la ville, on vient attacher le programme Accessibilité universelle.
Dans d'autres arrondissements, oui. On impose la mise en accessibilité?
C'est qu'on en fait maintenant la promotion. C'est
la promotion, d'accord.
On ne dissocie plus le programme PRAM à l'accessibilité universelle. On profite de parce qu'en fait, on rouvre une porte en disant, ben voici, on vous donne une subvention en général pour refaire votre devanture, mais en même temps, by the way, on peut augmenter ta subvention si tu viens chercher la subvention de l'accessibilité universelle.
Okay.
Mais au-delà de ça, les autres arrondissements aussi font la promotion. Nous, on travaille via notre commissaire au développement qui rencontre les propriétaires, leur fait la sensibilisation, puis... Bien, évidemment, moi, comme maire, je les connais commerçants.
Ben oui, bien sûr, vous les connaissez probablement personnellement.
Personnellement, ouais. Et je vais les voir pour les apporter parce qu'on est des réalités. On a tous une petite marge de nos pouces là, avant les commerces. Mais là, comment amener ça?
Comment la faire disparaître?
Comment
tout
la faire
en conjuguant
ça
à d'autres aménagements qui revitalisent les
exactement.
Commerces?
Exactement.
Donc, juste pour qu'on comprenne, votre stratégie, c'est de renvoyer, disons, services qui s'adressent aux entreprises. Mais est-ce que vous en faites la promotion spécifique de ce programme-là de mise en accessibilité?
Moi, j'en fais la promotion directement avec les citoyens, avec les propriétaires terriens, mais aussi à travers mes collègues. Mes collègues... on en parle beaucoup parce que Verdun a fait beaucoup de choses récemment, dans les dernières années, au niveau de l'accessibilité universelle. Mm-hmm. Et je le vois, mes collègues de d'autres maires d'arrondissement qui me disent, Jean-François, comment on peut le faire? Les politiques, on les transfère. Puis je vous le dis, je sais qu'ils vont aboutir dans d'autres arrondissements parce qu'en amont, on m'a déjà demandé. Alors, cette fois, c'est une question de temps pour les mettre sur la table. Mm-hmm. Mais c'est ça qui est intéressant. Je sais que ça porte.
Bien, donc un maire qui vend beaucoup la mise en accessibilité. Il y aurait beaucoup de questions à discuter parce que le bilan est large. Vous savez, Montréal, comme d'autres villes, est assujetti à un plan d'action pour les personnes handicapées. Depuis 2011, la ville a choisi de faire plutôt un plan sur l'accessibilité universelle. J'aimerais par contre penser à nos auditeurs, auditrices aveugles. Vous savez, la question du virage à droite revient souvent. Il y a souvent des envies de ramener ça sur le tapis et c'est le cauchemar pour les personnes aveugles. Votre administration a finalement décidé de ne pas opter pour le virage à droite cette année. C'est très bien. Par contre, il y avait un engagement qui existait avant dans le plan d'action qui consistait à faire la pose de 2000 feux sonores, parce qu'il y a à peu près 2000 à Montréal, là, il y a à peu près 2000 feux sonores. Donc, ils ne sont pas sonores. En tout cas, je vais y arriver. Donc, malheureusement, cet engagement-là n'a non seulement pas été respecté, mais il est un peu tombé dans les oubliettes. Est-ce que vous savez pourquoi?
Bien, il n'est pas tombé dans les oubliettes. Puis pour revenir au feu à droite, le virage à droite, le maire était clair, le maire de Montréal, sur cette question, il était clair. Pour une question de sécurité,
bien
le
sûr.
Virage à droite ne se fera pas cette année, mais pas l'année prochaine non plus. Ça, le positionnement était clair.
Ça n'arrivera jamais.
Puis, tant que l'administration Coderre sera là. Alors, ça risque d'être le cas pour longtemps.
Okay.
Alors, l'autre question, c'est la question des feux sonores. Il y a tout un redéploiement des feux de circulation. On parle des TI aussi, on parle beaucoup de l'intégration de la technologie. Et il y a des programmes, comme exemple à la STM avec INIT au niveau des transports. On vient attacher ça avec le déploiement des feux sonores. Alors, il y a toute une série de rues qui vont être faites, mais comme c'est un déploiement à plus large échelle, on le fait présentement avec l'intégration. Au lieu de faire du spot zoning en ce moment qu'on appelle, dire, bon, on fait une intervention pour les feux sonores, puis on va revenir un an après pour refaire un autre feu pour... Alors, il y a une harmonisation.
Donc, s'intégrer dans
il n'y a pas tombé dans l'oubliette, au contraire, il y aura un déploiement, mais d'ici là... quand les gens, exemple, qui ont une problématique de vision, ils vont faire affaire avec l'Institut Nazareth Louis Braille. Et la demande est envoyée en arrondissement et on installe le feu sonore sur un parcours pour sécuriser. En fait, c'est du cas personnel qu'on fait. Nous, à l'arrondissement Verdun, on en a des feux sonores.
Ben, c'est un beau service, mais c'est quand même une logique d'adaptation. C'est sûr qu'il y a des gens, vous le savez, qui n'osent pas demander, qui acceptent d'être plongés un peu dans l'insécurité parce qu'ils sont habitués comme ça.
C'est pour ça que j'en parle en ce moment, de dire aux gens de ne pas hésiter à demander à leur arrondissement, puis par l'Institut Nazareth Loubrin. Mais entre-temps, le déploiement va se faire, puis on va harmoniser, parce que l'accessibilité universelle, il y a le mot « universel ».
Merci, j'aime ça que vous le répétiez. Avant qu'on se quitte, bon, il y a l'opposition officielle puis des groupes qui réclament une station de métro accessible dans votre arrondissement puisque ce serait la seule qui n'en aurait pas. Mine de rien, vous êtes aussi sur le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, la STM. Comment vous recevez cette revendication-là?
Bien, qui est très légitime. Puis évidemment, si on pouvait, demain matin, moi, je serais le premier à dire on veut toutes les stations dans 2 semaines, mais la réalité nous rattrape. Mm-hmm. Question de budget. Dans l'annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral, la Ville de Montréal et la STM, c'est qu'il y avait un budget de 700 millions alloué directement pour la modification des stations. Et le temps alloué versus le budget, on allait avec les stations les plus faciles à adapter. Okay. À Verdun, on a une réalité, c'est des stations beaucoup plus difficiles, okay. Mais on travaille présentement sur la station Verdun à court terme.
Ah oui! Donc, vous avez entendu un peu la revendication. Vous allez faire le possible,
oui, ben,
considérant les contraintes techniques.
Oui, j'ai toujours entendu la revendication okay. À ce niveau-là. Okay. Mais juste à rajouter tantôt qu'on parlait de le programme de l'accessibilité universelle de la Ville de Montréal, mm-hmm. C'est le canevas de base. Chacun des arrondissements, la preuve en est, Verdun le fait, a le privilège d'accentuer sa démarche, mm-hmm. Aller plus loin que l'accessibilité universelle. Alors, on parle souvent de centralisation, décentralisation. Ça n'est un bon exemple où on a une vision globale, mais en arrondissement, on peut agir. Chacun peut le faire.
Et donc, vous le faites, il faut le dire. Il y a aussi les questions de logement qu'on n'a pas pu aborder. Juste vous dire aussi qu'on réclame un info-logement à l'émission un peu plus tard.
Oui.
Il y aura une manifestation la semaine prochaine. J'imagine que vous êtes plutôt favorable
absolument,
à l'idée d'info-logement.
Absolument, tout ça. On prend l'exemple d'On roule Québec avec Catherine oui. Blanchet-Allaire, qui est une bonne amie.
Ben oui, vous avez fait une marche ensemble
oui,
sur Wellington.
Marches, j'étais au début de On roule. Oui. Qui était ça. Alors, oui. C'est quelque chose sur lequel on travaille déjà aussi.
Parfait. On retrouve les engagements du parti et d'autres informations en visitant le équipedenicoderre.com. Jean-François Parenteau, candidat à la mairie et aussi maire sortant de l'arrondissement Verdun. Merci infiniment.
Merci à vous.
Prochaines élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, on reçoit à l'émission une représentante de l'opposition officielle à Montréal pour présenter, disons, dans les grandes lignes, les éléments de leur plateforme électorale qui nous interpellent. Donc, Émilie Tullier, qui était jusqu'au déclenchement des élections conseillère de la ville dans le district d'Hunsick, elle est aussi candidate à la mairie d'Hunsick-Cartierville et dans le passé, il faut s'en rappeler, alors qu'il y a eu un gouvernement un peu spécial, assez indépendant en 2013, elle était porte-parole et membre du comité exécutif pour les questions d'accessibilité universelle. Alors, bonjour, Mme Tullier.
Bonjour.
Très content que vous soyez avec nous.
Moi aussi.
Et pour que les gens vous connaissent mieux, il faut dire d'emblée que vous êtes là depuis les débuts du parti Projet Montréal. Vous avez même vous êtes une environnementaliste, vous avez été élue pendant 2 mandats. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur votre parcours, peut-être, pour que les gens vous connaissent un peu mieux?
Effectivement, depuis 2005 à Projet Montréal, élue depuis 2009, donc un an au comité exécutif en 2013. Et je me représente parce que je trouve que la politique municipale, c'est tellement important dans la vie de tous les jours, mais la vie de tous les jours, c'est aussi la vie dans son ensemble. Alors, moi, le municipal, ça me passionne. Et je suis contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui.
Ben oui, bon, alors on vous entend, on voit votre motivation qui continue. Vous discutez souvent dans votre parti, Émilie Tullier, des questions qui touchent les personnes aînées, vous intervenez aussi souvent sur la pauvreté. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre ces groupes-là et aussi avec les personnes en situation de handicap, d'après vous?
Oui, nous, on veut bâtir une ville inclusive. Et parce qu'on pense fortement que quand on bâtit la ville pour les plus vulnérables, donc ou les aînés ou les personnes en situation de pauvreté ou les enfants aussi, bien, une fois que la ville est bâtie pour eux, elle est accessible à tout le monde parce mm-hmm. que les gens qui n'ont pas de vulnérabilité, finalement, bénéficient aussi de ces aménagements-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de cette façon de faire la ville. Puis pour nous, une ville, ça doit être pour tout le monde.
Donc, inclusif, c'est un mot d'ordre. D'ailleurs, on le retrouve pour l'instant dans vos communications. C'est souvent très associé à l'accessibilité universelle. Votre parti dans sa plateforme, du moins celle qui était présentée à votre dernier congrès, a fait des propositions spécifiques pour la mise en accessibilité du transport collectif, mais aussi pour l'habitation. De quoi il s'agit exactement?
Alors, pour le transport, on a... nous, on mise sur le métro. C'est sûr que c'est cher, mais pour nous, le métro, c'est vraiment pour l'autonomisation des personnes et vraiment toutes les personnes. Donc, oui, au prolongement de la ligne bleue, oui, au prolongement de la ligne orange, mais on propose aussi une ligne rose qui dessert...
Qui va être accessible, j'espère.
Hein? Tout à fait, bon. Qui va être accessible parce que quand on construit tout de suite avec l'accessibilité. Donc, qui part du nord-est de Montréal, qui va au centre-ville et qui va vers le sud-ouest. Donc, vraiment, de construire plus de métro, évidemment, sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et on veut aussi, nous, à chaque fois qu'on refait une rue, on réfléchit à la rue. Comme un trottoir de 70 cm le long du parc Laurier sur la rue Brébeuf, pour nous, c'est inconcevable. Jamais à Montréal, on construit un trottoir de 70 cm. On ne peut pas marcher dessus. C'est une bordure à Montréal. Ce n'est pas un trottoir, ça. Là.
Mais même pour que les gens comprennent, là, il y a une décision qui a été prise il y a 2 ans déjà dans le plateau, dans l'arrondissement du plateau, et on est allé à la moitié des standards habituels.
Oui,
c'est ça, 70 cm.
Puis on fait dire que c'est sur le plateau, mais que le projet Montréal dans le plateau était fortement opposé. C'est le maire Coderre qui est venu faire défaire en fait quelque chose par-dessus l'administration locale. Et ben, si on vient par-dessus l'administration locale pour quelque chose de mieux, peut-être, mais pour défaire quelque chose qui... En tout cas, ça n'a vraiment pas de bon sens, là. Donc, refaire des trottoirs, mais refaire aussi en élargissant dès que c'est possible pour que tout le monde puisse avoir accès à nos rues et nos trottoirs. On s'est mobilisé aussi fortement pour avoir une station de métro accessible universellement, donc avec ascenseur à Verdun, parce que dans le plan de la STM, jusqu'en 2022, il n'y a aucune des 3 stations de Verdun.
Pourquoi
qui est
vous revendiquez Verdun particulièrement?
Parce qu'il y en a, dans le plan jusqu'en 2022, il y en a une au moins dans tous les arrondissements, sauf à Verdun.
OK. Donc, puis, en Verdun, il n'y a aucune...
C'est pas prévu jusqu'en 2022.
OK. Et aucun véhicule accessible. Okay.
C'est ça. Il y a des gens, il n'y en a aucun accessible. Puis jusqu'en 2022, en théorie, il n'y en aura pas. Et Verdun a la chance d'avoir quand même 3 stations de métro. Alors, on pense qu'au moins une de ces 3-là devrait être visée dans...
C'est en phase avec ce que les groupes de défense de droit demandent, à votre avis? Est-ce que vous sentez qu'il y a un écho à cette demande-là pour Verdun?
Bien, je pense qu'il y a un écho partout à Montréal. Donc, il faut en mettre dans tous les arrondissements. Puis là, bien, c'est ça l'arrondissement qui était laissé de côté. Puis nous, on pense qu'on doit répondre à cette demande-là.
Okay.
Est-ce qu'on passe tout de suite à l'habitation,
déjà? En fait, l'habitation, effectivement, on en parle assez peu. Faut dire que dans cette émission, il y aura aussi la présence de groupes qui défendent le droit au logement. Donc, qu'est-ce qui va être proposé par Projet Montréal pour l'habitation, disons, accessible ou universellement accessible?
Donc, quand on fait des nouveaux projets, nous, on veut une mixité sociale, mais une mixité de fonctions aussi. Donc, quand on construit, on veut qu'il y ait des commerces à proximité de l'habitation, des institutions, pour faire en sorte qu'on ne soit pas pris dans notre banlieue ou dans notre logement sans avoir d'activité ou de service de proximité. On veut aussi avoir, en ce moment, vous savez, une politique d'inclusion à la ville. Nous, on veut la bonifier. On veut faire 20 % de logements sociaux plus 20 % de logements abordables dans tous les gros projets. Okay. En ce moment, c'est 15-15. Donc, ça permet aux personnes qui sont plus vulnérables d'avoir accès à des logements et à des logements neufs aussi.
Puis, quel pourcentage de ces logements-là serait accessible? Est-ce qu'on penserait à une accessibilité universelle dans la construction?
Bien sûr que le bâtiment doit absolument être à l'accessibilité universelle. L'ensemble des logements probablement ne sera pas adapté, sauf qu'il faut effectivement prévoir des logements adaptés. Là, je n'ai pas de pourcentage exact à vous donner aujourd'hui. Par contre, ce qui est important aussi en ce moment, c'est qu'on doit avoir un guichet unique. En tout cas, nous, ce qu'on veut mettre, un guichet unique pour l'accessibilité universelle, pour informer les organismes, les groupes, mais les personnes aussi, qu'il y a des logements qui sont disponibles ou qui sont déjà accessibles ou qui sont adaptés ou qui peuvent être adaptables. Parce qu'en ce moment, des fois, il y a des logements qui n'y a personne dedans, puis il y a des personnes qui cherchent, puis il faut faire le maillage entre ces deux-là.
Bon. Et juste avant qu'on se quitte, bien sûr, on entend votre plateforme. Vous n'avez pas encore le pouvoir. Des gens travaillent pour que vous l'ayez. Donc, vous pourriez mettre ça en place. Mais vous savez, la semaine dernière, l'équipe Coderre annonçait la candidature de l'activiste Linda Gauthier. Donc, est-ce que le parti Projet Montréal va finalement présenter aussi une candidature, une personne qui serait en situation d'handicap, ou à tout le moins trouver le moyen peut-être de pallier à cette grosse pointure que tu as trouvée quand même par l'équipe Coderre?
Oui, en fait, ben, le premier qui s'est lancé dans la bataille, c'est Laurent Morissette.
Hein, aussi
qui
du
s'est présenté ouais. aussi du rappeler qui s'est présenté à une des investitures fortement contestées dans Rosemont pour mm-hmm. Projet Montréal. Mm-hmm. Donc malheureusement les membres n'ont pas voté pour Laurent, mais c'est vraiment un premier pas. Maintenant Madame Gauthier et nous nous avons annoncé un candidat là, qui était déjà prêt, mais l'annonce est faite tout en même temps pour les candidats de l'Est. Donc c'est un candidat pour le conseil pour être conseiller d'arrondissement dans Anjou. Mm-hmm. Il s'appelle Monsieur Sylvain Plourde.
Okay. Donc, mais ce n'est pas un conseiller de ville, ceci dit.
Effectivement, vous avez raison.
Il voilà. faudra travailler.
Mais il faudra que Mme Gauthier soit élue. Mm-hmm. Parce que c'est un peu ça. M. Morissette, il se présentait ouais. à une investiture, à un poste très facilement gagnable oui. pour Projet Montréal dans Rosemont, alors que l'équipe de M. Coderre dans le plateau risque de perdre.
Okay.
Hein? Donc, c'est une façon aussi, des fois, on donne des choses à certaines personnes, mais le risque, la probabilité plutôt d'être élu est assez faible. Donc mmh. ça aussi, il faut le prendre en considération.
On entend bien ce que vous répondez à ça. Merci beaucoup, Émilie Tullier. Je veux juste vous indiquer que pour avoir plus d'informations sur les engagements du parti et d'autres informations, visitez projetmontréal.org. Évidemment, vous pouvez aussi aller visiter l'adresse qu'on a donnée dans le segment précédent pour l'équipe Coderre. Émilie Tullier est candidate à la mairie d'Onsic-Cartierville et porte-parole en matière d'accessibilité universelle. Merci beaucoup.
Merci.
Avec nous, pour la première fois, titre de chroniqueuse sur les droits sexuels, Sonia Boucher de Sexologue à domicile. Bonjour Sonia.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Oui, ça va bien. J'ai pas fait de préambule parce qu'on manque un peu de temps. Les élections en prennent beaucoup, mais on a le droit de parler d'intimité quand même.
C'est vrai.
Bon, voilà. Alors que pour que les gens vous connaissent mieux, vous avez fondé Sexologue à domicile. Expliquez-nous ce que vous faites exactement.
En fait, moi, j'ai fondé le service. En travaillant, je me suis rendu compte que pour plusieurs personnes en situation de handicap, c'est difficile de consulter pour des services en sexologie et psychologie, puisque les bureaux en tant que tels sont pas toujours accessibles. Mm-hmm. C'est difficile à Montréal de trouver un local accessible et d'offrir le service à tout le monde.
Voilà.
Donc, moi, j'ai débuté le service pour pouvoir aller à domicile, aller chez les gens, toujours dans une optique, bien sûr, de soutien à domicile.
D'habitude, vous parlez davantage de domicile, si on peut dire ça ainsi. Aujourd'hui, on s'intéresse aux droits sexuels en institution. Expliquez-nous d'abord, il y a un principe là, que vous utilisez souvent, que ce soit pour les gens en institution ou les gens ailleurs, le principe de jugement de valeur versus le jugement clinique.
Ça, c'est un principe fondamental en intervention sexologique. Mm-hmm. Ce que ça dit, c'est que souvent, quand on est confronté à une situation à caractère sexuel, d'emblée, on va réagir avec notre jugement de valeur, avec mm-hmm. nos propres valeurs, ce qu'on a appris, ce qu'on s'est construit comme perception de la sexualité aussi. Mm. Donc, on va avoir tendance, comme intervenant, à réagir en fonction de notre propre jugement de valeur.
Voilà,
par okay. contre, ce qu'on recommande en intervention sexologique, fondamentalement, c'est d'intervenir en fonction d'un jugement clinique, donc mm-hmm. d'adresser la problématique comme toute autre problématique à caractère médical. C'est-à-dire, par exemple, si un usager, une usagère a un problème au niveau de l'alimentation, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir en équipe, on va en discuter. Effectivement, on va consulter la nutritionniste, on va régler le problème en équipe. Pourquoi? Parce que ça va prendre un point de vue interdisciplinaire. Mm-hmm. On va avoir besoin de plusieurs professionnels pour voir d'où vient la problématique puis comment on peut y pallier. Bien, moi, ce que je propose, c'est d'utiliser ce jugement clinique-là, interdisciplinaire, pour une situation à caractère sexologique aussi.
Bien.
Ça évite que les intervenants réagissent en fonction de leurs propres valeurs personnelles, religieuses, culturelles ou autres.
On entend bien, Sonia, donc, faut éviter d'être précipité. Hein? C'est pas parce que c'est une question qui nous offense, peut-être, ou autre, qu'il faut y aller autrement qu'en tout respect des droits. Hein? On parle de droits, donc.
Absolument.
C'est
oui.
quoi un droit sexuel, même quand on est en institution, Sonia?
Donc, les droits sexuels sont fondés sur les droits humains.
Hein? Mm-hmm.
Donc, on parle de liberté, on parle d'une expression sans coercition, sans violence, où les personnes peuvent elles-mêmes prendre part aux décisions qui les concernent.
Bien sûr.
Et les droits sexuels, eh bien, ça s'applique aussi en institution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le droit sexuel en institution? Ça veut dire que la personne a le droit à une intimité, à une dignité, à des rapprochements, parce que l'institution, ça devient son milieu de vie.
Voilà. Donc, la personne, même si elle est institutionnalisée, perd pas son humanité. C'est ce que vous dites au fond. Ça implique nécessairement les droits sexuels. Est-ce que des... Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des procédures ou des politiques en place dans les institutions, brièvement, qui existent là déjà?
Il y en a qui existent déjà. D'ailleurs, le professeur André Duprat a beaucoup travaillé dans la région de Montréal à instaurer des politiques, des procédures dans certains établissements, entre autres les CHSLD.
Mm-hmm.
Maintenant, dans d'autres établissements, c'est plus difficile parce qu'on parle d'un changement de culture. C'est ça qui est très difficile.
Ah.
Donc, normalement, où la sexualité est interdite, ça va être difficile d'instaurer une procédure qui respecte les droits sexuels.
Mm-hmm. Donc
oui, ça existe déjà, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour instaurer ça dans la culture même de l'établissement.
Et donc, tout ce travail-là, comme vous le dites, c'est vraiment variable d'une institution à l'autre. Alors, il nous reste 2 minutes à la chronique. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut s'informer, où on peut demander de l'aide quand on sent, par exemple, que notre proche...
En fait, la première chose à faire quand on a un proche ou même un client, un usager qui veut s'informer de ses droits sexuels, c'est de s'informer sur les règles en vigueur.
Mm-hmm.
Déjà dans l'établissement, parce que parfois, c'est juste une question de méconnaissance. On ne sait pas qu'on a le droit, par exemple, à tel ou tel privilège ou service même.
Ou même accommodement, au fond. Ouais.
Oui, exactement. Donc, service d'accompagnement aussi. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est déjà en place. Il ne faut pas se gêner d'ouvrir le dialogue. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. C'est d'ouvrir le dialogue.
Et comme sexologue, vous êtes effectivement spécialiste du dialogue. Je trouve ça normal que c'est ça que vous nous recommandiez. Merci beaucoup, Sonia Boucher. On se retrouve pour d'autres chroniques sur les droits sexuels. Est-ce qu'on peut vous lire deux instants? Y a-t-il un endroit où on peut se référer à vous au besoin?
Oui, certainement. Consultez mon site web sexologueadomicile.com. Ça va me faire plaisir.
Merci, Sonia Boucher. À bientôt.
Merci beaucoup, Benoît. Au revoir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
C'est pas simple d'avoir accès à des logements sociaux ou abordables, en tout cas pour les gens qui chatouillent même l'abordable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est encore plus difficile d'avoir accès à de tels logements, mais qui soient accessibles ou voire universellement accessibles. Heureusement, des organismes œuvrent pour votre droit au logement. Et on en invite ici à l'émission de fois de temps en temps, mais aujourd'hui spécialement, avec nous Céline Magontier, organisatrice communautaire au Frappru. Bonjour Céline.
Bonjour Benoît.
Très content que vous soyez avec nous.
Mais oui, moi aussi.
Marjolaine Deneau du regroupement, je le dis ou long, là, parce que Réclalc, c'est pas toujours clair. Donc, regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour Marjolaine.
Bonjour Benoît.
Et Simon-Philippe Caron, agent de défense de droit pour l'organisme Ex-Éco.
Oui, bonjour Benoît.
Bon, content de vous avoir à table. Maintenant qu'on y est, hein, on est à table, on va vous cuisiner. C'est pas compliqué, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on a le droit au logement. On a seulement constaté que c'est pas tout le monde qui, de fait, en profitait. Il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de mal logés, des personnes qui paient trop cher. C'est quoi le droit au logement, Céline Magontier du Frappru?
Le droit au logement, il ne faut pas l'entendre comme juste un toit qu'on peut avoir sur notre tête, là, selon l'ONU. Le droit au logement, c'est un lieu où on peut vivre en sécurité, dans la paix et dans la dignité.
Mm-hmm.
Donc, on voit bien à l'heure actuelle que le droit au logement n'est pas du tout respecté au Québec.
Voilà. Et donc, la dignité, ça veut dire aussi D'être capable de voir ses droits reconnus. Hein. C'est un peu ça que ça dit, vu de son intégrité, sa sécurité. Vous avez bien raison. Marjolaine Deneau du RECLAC, qu'est-ce qu'on pourrait dire du droit au logement?
Bien, la question du droit au logement, c'est aussi une question d'accessibilité. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de ménages qui, malheureusement, n'ont pas accès à un logement qui leur convient selon leurs besoins. Mm-hmm. On peut notamment penser qu'il y a 480 000 ménages au Québec qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus juste pour se loger. Donc, c'est sûr que c'est à ce niveau-là aussi, on peut penser à des logements à une grandeur suffisante. Donc, pour des ménages plus nombreux ou qui ont des besoins particuliers, c'est aussi ça le droit au logement, c'est d'avoir un toit qui convient selon nos besoins.
Et c'est pas facile, surtout quand on est obligé de payer cher en plus pour petit. Simon-Philippe Caron, vous êtes allé d'Ex-Éco, vous-même, d'autres, à la rencontre de ces groupes-là pour proposer d'élargir la notion du droit au logement. C'est quoi pour vous, Ex-Éco, le droit au logement?
Évidemment, chez Ex-Éco, on fait la défense des personnes en situation d'handicap. Lorsque le logement est la situation d'handicap, là est le problème, mais on n'est pas du tout dans le droit au logement. Le droit au logement, pour moi, en fait, c'est le droit à l'autonomie, le droit de bâtir sa vie, d'avoir un centre sur lequel on peut construire le restant de sa vie. Lorsque le logement est mal adapté, lorsque le logement met à risque la santé physique et mentale des gens qui l'habitent, lorsque le logement devient une prison, par exemple l'hiver, à cause de problèmes d'accessibilité, ben là, on n'est pas du tout dans le droit au logement. C'est des gens qui sont logés, mais qui ne sont pas en logement. Si vous voyez la différence.
Ah, j'entends bien. Par contre, c'est triste de même, mais dans la Charte des droits et libertés, il n'y a pas de droit au logement. Ça, le Frappru, Ex-Éco, d'autres groupes aussi l'ont souvent décrié. Ça aiderait d'avoir une pogne juridique, mais maintenant, on peut accepter comme société, à cause des dispositions juridiques, que quelqu'un soit dehors. Parce que c'est ça, il n'y en a pas d'écrit nulle part. Et c'est la même chose pour une personne en situation de handicap qui a des besoins particuliers. Elle peut vivre dans un logement, même qui est inadéquat. Bon. On entend, vous vous réunissez d'ailleurs la semaine prochaine, je vais l'annoncer tout de suite, le 25 septembre prochain. Étant donné que c'est le dernier conseil municipal en vue des élections, vous vous réunissez pour réclamer un moyen, on va parler plus tard, de peut-être mieux reconnaître le droit au logement des personnes en situation d'handicap. On espère, j'ai posé la question d'ailleurs aux représentants de l'administration actuelle sur le droit au logement, il y avait l'air favorable à l'idée d'un infolo-logement. Fait que je ne sais pas si on peut considérer ça comme un premier appui. En tout cas, on en reparlera plus tard. Donc, on vient au municipal après, mais avant, un peu partout au Québec, le Frappru se promène pour cueillir, parler aux gens du droit au logement. Expliquez-nous un peu mieux ça.
En fait, c'est une tournée qu'organise le Frappru, comme tu viens de le dire, qui se fait sur 5 semaines dans 5 régions différentes. Mm-hmm. Donc, ça a commencé le 6 septembre dernier à Gatineau. Ensuite, on a été à Rouyn-Noranda la semaine dernière, à Trois-Rivières cette semaine, Longueuil la semaine prochaine, et le 2 octobre sera la clôture à Montréal, dans le cadre de la Journée nationale la Journée mondiale de l'habitation, pardon. Donc, l'objectif de cette tournée, c'est de faire reconnaître les problèmes de mal-logement au Québec, comme l'a expliqué Marjolaine, qui sont vraiment importants. Là. Ce sont 270 000 ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logement au Québec, c'est-à-dire soit parce qu'ils payent trop cher, que le logement n'est pas adapté aux besoins, trop petit ou insalubre ou vétuste. Donc, on veut visibiliser cette problématique-là tout en recueillant des données sur l'état du droit au logement. Puis c'est aussi une manière de...
Faites des audiences, c'est ça? Vous appelez les gens à parler de leur situation?
On fait des audiences populaires, donc on fait témoigner des gens qui sont mal logés actuellement au Québec, là, des mal logés, pour permettre de visibiliser cette question-là, puis de revendiquer auprès des gouvernements canadiens et québécois que le Canada reconnaisse formellement le droit au logement, parce que bien qu'ils aient ratifié le pacte de l'ONU en 1976, c'est pas un droit qui est reconnu formellement actuellement. On demande aussi des investissements suffisants de la part des deux paliers de gouvernement afin de pouvoir financer 50 000 logements sociaux en 5 ans, donc 10 000 par année. Là, c'est vraiment le besoin actuel, c'est vraiment le nombre nécessaire pour répondre aux besoins actuels et aussi de préserver l'existant parce qu'il y a des logements sociaux en ce moment qui sont en danger par manque de subventions en raison de la fin des conventions de logements qui ont
été... Donc, il faut rappeler aux gens la fin des conventions, c'est une décision du gouvernement Mulroney au Canada qui a un impact aujourd'hui qui fait qu'il y a moins d'argent pour le logement social.
Surtout les logements qui ont été fabriqué avant 1994.
Bon, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous parlez spécifiquement pour, j'oserais dire, le terrain municipal dans cette tournée?
Non, cette tournée s'adresse vraiment aux deux paliers de gouvernement, mais en effet, comme on visibilise les besoins selon les régions, parce que les besoins en logement ne sont pas les mêmes à Rouyn-Noranda qu'ils sont à Montréal, qu'ils sont à Québec ou à Trois-Rivières. Donc, c'est aussi une manière de visibiliser régionalement les besoins. Ça va nourrir les revendications montréalaises, parce qu'on a aussi un plan d'action à Montréal, au FRAPRU, que les groupes de Montréal organisent, afin d'avoir des revendications précises au niveau municipal, qui sont de demander aux candidates et candidats de faire pression activement sur les paliers de gouvernement supérieurs par rapport aux revendications.
Oui, c'est ça. Ça, c'est important, parce que le rôle même des élus municipaux, régionaux, c'est pas juste de s'occuper de l'aménagement de base, là, c'est aussi d'être une force politique, puis de défendre les droits ou les intérêts de leur population à l'endroit, par exemple, du gouvernement provincial ou fédéral. C'est ce que vous dites, dans le fond, soyez un petit peu politique, vous, futur élu de Montréal, peut-être.
En tant que municipalité, ils ont un pouvoir de pression à faire par des sorties publiques, par des négociations, etc., etc. Puis il y a Axel Logis en ce moment, avec le projet de loi 121 et 122, qui est un projet de loi qui donne plus de pouvoir et de responsabilité à la ville. Notamment, Axel Logis va être transféré en partie ou en totalité, en tout cas sur les subventions, à la ville de Montréal. Fait qu'ils sont en période de négociation en ce moment. Fait que c'est aussi un moment crucial. Puis comme le Canada va sortir une stratégie sur le logement, sa première le 22 novembre. Fait que c'est comme c'est le moment. Puis le Québec rentre en élection bientôt et a fait des surplus budgétaires.
En plus!
Historique.
Imaginez.
Fait que, il faut.
Donc, Céline, ce que vous nous proposez pour le FRAPRU, c'est de profiter de ces élections pour s'assurer que les pouvoirs, peut-être même de l'argent qui va venir du Canada, du Québec, soit bien utilisé pour aider le logement social
à
Montréal. Mais on dit aussi aux gens qui nous écoutent, c'est pas seulement une émission montréalaise, Longueuil sera visité le jeudi 28 septembre, je le rappelle, et si vous êtes de Montréal, c'est le lundi 2 octobre, lors de la Journée mondiale de l'habitation, de l'habitat, que vous pourrez rencontrer le FRAPRU, communiquer vos besoins. Très, très belle initiative de votre part, FRAPRU.
Surtout dans les témoignages. Puis il y a Trois-Rivières jeudi.
Oui, c'est vrai, je suis en train d'oublier Trois-Rivières. J'espère que vous ne m'en voulez pas à la maison. Donc, le 21 septembre à Trois-Rivières. Maintenant, il y a avec nous le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, le RECLALC. Alors, Marjolaine Deneau, le droit au logement, on a compris. Vous entendez assez bien avec le FRAPRU. C'est important de le rappeler.
Oui, en effet. On travaille ensemble.
On aime ça le dire. Mais vous avez comme cible actuellement une régie qu'on a toujours cru assez favorable aux locataires, mais vous montrez les lacunes qui existent actuellement avec la régie du logement.
Oui, en effet, Benoît, il y a une espèce de mythe qui dit qu'on entend souvent la régie des locataires, mais nous, en fait, on veut démontrer l'inverse. Donc, en ce moment, on mène une campagne qui s'appelle « La régie du logement, c'est du deux poids, deux mesures ». C'est une campagne qui a débuté l'année dernière et qui se base sur un rapport qu'on a publié en 2016 qui s'appelle « La régie sous la loupe, l'exécution partielle de la justice ». Donc, dans ce rapport-là...
Un super rapport qui a 50 pages.
Oui, c'est tout court.
Oui, mais c'est accessible, en tout cas. Puis, on peut parcourir les sections qui nous intéressent.
Exactement. Bon. Donc, on a essayé de rendre ça accessible. C'est quand même... Bon, la régie du logement, c'est quand même difficile. Des fois, tout le jargon juridique à comprendre. On a essayé de rendre ça accessible pour tous et toutes, pour qu'on puisse comprendre un peu c'est quoi les problèmes de la régie. Donc, le RECLAC, dans son histoire, a fait plusieurs rapports. Celui-là, en fait... et le plus récent, puis témoigne justement des problèmes que les locataires rencontrent à la régie. Donc, on en est vraiment venu à la conclusion que c'est une régie au service des propriétaires pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est très difficile pour un locataire d'entrer, de faire des démarches à la régie. On peut penser qu'on peut appeler la régie du logement et obtenir de l'information. C'est chose très difficile. Souvent, on note que les préposés donnent soit des réponses incomplètes, voire même erronées sur la question des droits, de comment procéder à la régie du logement. Puis là, ils redirigent automatiquement vers les comités logement et associations de locataires qui, heureusement, sont là pour compléter leur travail.
Mais parfois, ils sont quand même composés de 1, 2, voire 3 employés au grand maximum.
C'est
pas des grandes ressources tout le temps.
Exactement. Donc, les comités logement des ressources limitées, c'est difficile de répondre à la demande alors que c'est dans le mandat initial de la régie de servir autant les locataires que les propriétaires. On peut penser aussi au coût d'ouverture d'une demande. Donc, on parle de 74 $, alors que c'était gratuit à la création de la régie. On tend à l'oublier, mais au départ, c'était gratuit ouvrir une demande à la régie. On peut penser aussi à avoir accès au bureau. C'est quelque chose de très difficile. Il y a plusieurs bureaux qui ont fermé ou voire qui ont vu leurs heures d'ouverture diminuer très fortement.
Même qui sont inaccessibles aux personnes en situation
exactement,
de handicap.
Surtout en région. Je pense beaucoup aux personnes en dehors des grands centres. C'est très difficile de se rendre à la régie du logement. Et la régie avait essayé de résoudre ce problème-là en instaurant un site Internet sur lequel on pouvait ouvrir des demandes. Malheureusement, les demandes qu'on peut formuler, c'est des demandes qui s'adressent surtout aux propriétaires. Donc, on pense au non-paiement de loyer, à la fixation du loyer. Donc, c'est vraiment pas pour aider les locataires.
Et c'est vrai que le système fait que c'est vraiment ces causes-là qui sont priorisées.
Oui.
Si vous ne payez pas, vous êtes sûr que vous allez être appelé plus rapidement que si votre appartement est laissé dans un piteux état à cause de mauvais entretien ou de réparations non faites.
Exactement. C'est un peu la grande conclusion de notre rapport. Donc, la principale activité de la régie, c'est la résiliation du bail, justement dans des cas de non-paiement de loyer. Il y a autant, voire même plus de demandes, alors que généralement, les demandes globales à la régie tendent à diminuer. Il y a plus de demandes en chiffres réels.
Ouais.
Pour la résiliation de bail. Puis on peut penser au délai aussi. Quand un locataire veut faire une poursuite contre son propriétaire à la régie du logement, les délais peuvent être très longs, souvent peuvent dépasser la durée du bail, alors que quand on regarde pour un dossier de résiliation, ça peut prendre 30 jours, voire moins. Donc on voit vraiment le deux poids, deux mesures.
Oui.
Exactement.
Et d'ailleurs, c'est pratiquement le slogan de votre campagne.
Oui, exactement.
La régie du logement, deux poids, deux mesures. Est-ce que les locataires sont vraiment bien servis? Et surtout, les locataires en situation d'handicap, on peut vraiment se poser la question. Marjolaine Deneau, donc du RECLAC, nous invite à aller voir ce programme-là. Si jamais les gens ont des questions ou encore veulent poser une action pour régler cette iniquité-là, comment ils font?
Ils peuvent nous rejoindre sur notre site Internet ou par téléphone, donc le www.rclalq.qc.ca. Il y a toutes nos coordonnées ainsi que celles des comités logements, si jamais...
Ah, ça, c'est important!
Oui, c'est ça. Ben si jamais les personnes à l'écoute vivent vraiment des problèmes au quotidien, n'hésitez pas à rejoindre vos comités logements. Ils sont là pour vous aider puis pour vous aider dans vos démarches, notamment la régie du logement, qui peuvent être parfois très difficiles.
Il y en a presque dans toutes les régions.
Oui,
donc,
presque toutes.
Presque. Bon.
Presque.
Merci. Donc, Marjolaine Deneau, soyez rassurés, ces informations-là figureront sur la page de l'émission. Simon-Philippe Caron, maintenant agent de défense de droit chez Execo, vous venez nous parler d'une problématique que vivent beaucoup les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire elles ne savent pas où trouver un logement qui pourrait convenir à leurs besoins et en plus qui n'est pas trop cher, parce que bon, on sait qu'un des premiers handicaps des personnes handicapées, c'est la pauvreté. Simon-Philippe Caron, parlez-nous de ça un peu.
Ben oui, effectivement, on sait que 55% des personnes en situation de handicap ont revenu de moins de 15 000 $ par année. Donc, c'est sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme partout. La question, en fait, évidemment, on sait aussi qu'il y a très peu de logements sociaux qui se fait. On en a déjà parlé. Et du logement adapté ou accessible, il y en a encore moins.
Ouais.
Donc, le logement est rare et il n'y a aucune façon actuellement pour les propriétaires d'afficher leur logement adapté, accessible ou adaptable à un endroit précis. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que les locataires et les propriétaires ont du mal à se rejoindre.
Oui, c'est ça le problème.
Donc, ça, c'est une des grosses problématiques. Donc, oui, effectivement, nous, chez Execo, on pousse cette idée donc d'un infologement, donc d'un site web, d'un endroit centralisé où les propriétaires et locataires pourraient se rejoindre. Et quand je dis propriétaire, je parle autant du privé que du logement social.
C'est un mot qu'on utilise moins souvent, mais ça peut être une coop, ça peut être un OSBL d'habitation, ça peut même être un propriétaire prolétaire, ça existe?
Un propriétaire prolétaire. On s'en reparlera après l'émission.
Non, non, mais je dis ça comme ça, là. Ouais, tu sais, qui a acheté là, dans les années 40 une maison qui pouvait s'acheter, là, puis qui, là, il loue en haut.
Non. Un bachelor.
Bon. OK. Non, non, mais j'essayais d'être inclusif. Ça m'arrive. Execo, rappelons d'ailleurs que vous avez fait appel aux deux organisations qui sont avec nous.
Oui.
Mais il y a des communications là, qui existent depuis plusieurs années.
Oui.
Le droit au logement, ça appelle toutes les solidarités. On va dire ça comme
absolument.
Ça. Et donc, vous vous rassemblez pour réclamer un info logement. Vous l'avez dit, vous pensiez au site web, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire exactement là, et quand pour que les gens s'ajoutent là, en plus du frappru et du réclac?
Oui, bien nous, ce qu'on demande en fait, c'est que Montréal prenne la responsabilité de financer un tel site web ou même de le mettre en place si c'est leur choix. Donc, parce que en fait, Montréal, en 2011, dans sa politique d'accessibilité universelle, a pris l'engagement d'être un leader en matière d'accessibilité universelle. Alors, on croit qu'il est temps que ça se concrétise. Et comme Céline l'a mentionné plus tôt, Montréal va aussi avoir des nouveaux pouvoirs, en fait des pouvoirs accrus, dit-on, en habitation. Alors, avec les pouvoirs viennent des responsabilités. Alors, celle-ci, je crois que Montréal devrait la prendre. Donc, ce qu'on demande, en fait, c'est que les partis qui seront candidats à la prochaine élection prennent l'engagement donc, de financer ou de soutenir une plateforme. Et pour leur rappeler, pour ne pas se faire oublier, le 25 septembre prochain, donc de 3h30 à 6h, nous serons devant l'Hôtel de Ville, accompagnés du Frappru et du Réclac et de quelques autres groupes, et pour manifester cette demande. Et en fait, on invite tout le monde. C'est très inclusif.
Bon, excellent. La place Vauquelin, d'ailleurs, l'est de plus en plus inclusive. Et c'est le fun qu'elle accueille un rassemblement où vous allez faire du bruit, semble-t-il.
Oui, c'est sûr. C'est une action tintamarre. On veut se faire entendre. Je pense qu'il est important, en fait, aussi, faut peut-être le dire, souvent en défense de droits des personnes en situation de handicap, on a eu tendance à se faire plus discret. Je pense qu'il est temps, en fait, de se faire voir. On est en 2017.
Ou de se faire entendre.
Et de se faire entendre. Et cette action-là, donc, va un peu dans ce sens-là. Peut-être rappeler aussi que ce lien-là, donc, on est en train de mettre en place avec le Réclac et le Frappru. Ben, en fait, il est en place depuis quelques temps déjà.
Ah, mais, c'est déjà chaud, votre relation. On le sent.
Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut peut-être rappeler que les personnes en situation de handicap, oui, vivent des situations particulières à leur situation. En même temps, vivent aussi les mêmes problèmes que tous les autres locataires.
Oui, puis c'est important d'être solidaires ensemble dans cette grande aventure-là, parce que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on a juste besoin d'un logement où on peut rentrer dedans. Hein. On a besoin la même chose que les autres. Et surtout, on peut être citoyen comme les autres. Alors, je vous le dis, je vous répète, je prends même 30 secondes de plus à ce segment. C'est important, il faut y être le lundi 25 septembre prochain à la place Vauquelin, quelque chose comme 275 Notre-Dame-Est. C'est à 15h30. Il y a du café, un goûter, hein? Vous savez recevoir. Et si on veut avoir plus d'informations, on écrit à spcaron@commercialexeco.net ou on compose le 514-288-3852, poste 228. Merci beaucoup, Réclac, Frappru, Exéco, vous êtes magnifiques.
Merci à toi, Benoît.
Une autre journée, la fin d'une soirée. Un moment où mes amis sont des frères, des êtres chers. Nous sommes tous comblés, on veut s'amuser. Un moment où la vie est un soleil qui rend prospère. Oh oui, c'est ce soir, nous sommes préparés à vivre des instants où les limites n'ont pas lieu d'être. Nous rentrerons tard, on veut oublier toutes les misères et les craintes qui nous prennent la tête. Toute la nuit, sans la pluie, sans ennui, en se munit d'une envie qui détruit nos soucis.
Cet été, le parasport n'a pas chômé. Et qui de mieux qu'Émilie Bouchard, la bonté de Sport.com, pour nous rappeler les événements. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Très content de te parler de nouveau. Et toi, tu nous amènes vers le basket et le rugby.
Oui, entre autres, puisque ces deux équipes nationales, en fait, les trois équipes nationales en basket féminin et en masculin, de même qu'en rugby, en fauteuil roulant, étaient en championnat panaméricain, en fait, Coupe des Amériques cet été pour, en fait, confirmer leur place. C'est une épreuve qualificative pour les championnats du monde qui vont avoir lieu en 2018. Alors, c'était des tournois très importants à leur calendrier cet été.
Ah oui, et donc ça leur a pas permis d'avoir des vacances, on s'en excuse, mais le basket féminin a proposé des Canadiennes assez surprenantes, hein, c'est ce que vous voulez nous dire?
Oui, absolument, puisque à la Coupe des Amériques, pour le penchant féminin, l'équipe nationale a remporté la médaille d'or.
Ah oui!
Très belle séquence pour les Canadiennes qui ont demeuré invaincues tout le tournoi. Alors, du début à la fin, elles ont signé des victoires. Une victoire très importante en finale contre les Américaines, très grande équipe. Alors, c'est vraiment satisfaisant pour l'été des Canadiennes, surtout qu'elles, lors des Jeux paralympiques l'été passé, ça n'avait pas été vraiment comme elles étaient.
Mais et comment on explique un retour de vigueur aussi remarquable?
Bien, en fait, il y a plusieurs recrues qui ont joint l'alignement. J'imagine que ça peut donner un nouvel air d'aller à l'équipe. Mm-hmm. Et un nouvel entraîneur aussi rendu à la tête de l'équipe féminine aussi, qui est un Québécois, Marc-André Ducharme, okay. qui a été nommé à la tête de l'équipe là, au début de l'été. Alors, peut-être que ça a permis de revitaliser un peu l'équipe, mais on peut compter quand même sur des vétérans, notamment comme celle de la part, en fait, de Cindy Ouellet, qui est l'une des plus anciennes au sein de l'équipe et qui a vraiment fait sa place aussi cet été, notamment en étant nommée joueuse du match là, lors de la finale.
Ah, c'est un nom à retenir. Deux autres Canadiennes sont remarquables aussi. Vous releviez Rosalie Lalonde, c'est ça?
Oui, Rosalie Lalonde, qui est quand même assez nouvelle au sein de l'équipe nationale chez les Québécoises, mais qui était de l'aventure à Rio l'été passé. Ah, une petite nouvelle, Élodie Tessier, qui est à ses premières armes là, au sein de l'équipe nationale en basket en fauteuil roulant. Alors, c'était vraiment bien l'avoir en place. Et aussi, un nouvel entraîneur qui est aussi québécois. Alors, c'est une belle petite équipe, une belle représentation québécoise au sein de l'équipe nationale.
Voilà, voilà. Et avec Laure en prime. Génial. Un peu de rugby avant de partir. Donc, le rugby en fauteuil roulant a aussi fait ses marques, si on peut dire, encore cet été.
En effet, en rugby en fauteuil roulant, qui est aussi dirigé par un Québécois, donc Patrick Côté, depuis le nouveau cycle paralympique, eux aussi étaient en championnat panaméricain et pour leur part, ont remporté la médaille d'argent. Ils se sont inclinés en finale là, contre l'équipe américaine, mais une défaite assez serrée. On parle d'une marque d'environ 54-43. Alors, c'est quand même asserré dans le monde du rugby en fauteuil roulant. Très belle prestation de l'équipe qui devait faire sans un de leurs joueurs importants, qui est un joueur québécois d'ailleurs, Patrice Simard, qui est en repos à la suite de blessures. Oh. Alors, il y en avait quand même deux Québécois au sein de l'équipe, le vétéran Fabien Lavoie et un petit nouveau aussi, Anthony Letourneau, qui était sur l'alignement.
Ah, ça, c'est heureux. Bon, on entend qu'il y a encore de la vigueur par là. Et je sais que vous aviez envie de souligner, en terminant, à propos de la classique des Appalaches.
Oui, qui a eu lieu ce week-end. Ligne d'arrivée était à Victoriaville. Bon, c'est la classique des Appalaches, c'est une épreuve à vélo, mais on avait Charles Moreau, qui est en paracyclisme, en vélo à main, qui a participé à l'une des courses, qui était, je crois, le parcours panoramique, je crois, qui était un parcours de 105 km avec un dénivelé assez important. En vélo à main, là, c'est vraiment complètement différent que les vélos traditionnels. Alors,
ouais,
ça devait être
voir.
Tout un défi pour lui avec les montées. Et bon, il accomplit avec succès ce 105 km qui s'est terminé, je pense, au sommet du mont Arthabaska dans la région de Victoriaville. Alors, je voulais vraraiment le souligner. Mm. Surtout qu'un 105 km, c'est à peu près le double de la distance qu'il parcourt généralement sur le circuit de la Coupe du monde.
Ah oui, mon Dieu, il a réussi à doubler récemment, en fait, dans sa dernière compétition-là. Ça, sa route.
Distance. Oui, c'est ça, parce qu'on généralement, là, une course sur route en vélo à main, en Coupe du monde, en championnat du monde, c'est peut-être une soixantaine de kilomètres, 70 kilomètres, alors on parle de 105, alors, et avec un dénivelé pas mal plus important, on a un peu une vision, comme on est très bas en vélo à main, on a une vision un petit peu moins grande de ce qui nous entoure. Pour les montées, c'est vraiment musculaire, évidemment, on pédale avec les bras et non avec les jambes, alors c'est vraiment un effort important pour lui, mais très, très content, et surtout que, comme ça faisait partie d'une campagne de financement, je pense que pour chaque inscription, donc chaque personne qui a roulé avec lui, il a pu avoir aussi un petit coup de main financier pour la suite là, jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo.
Très heureux d'avoir entendu ces athlètes inspirants par votre concours, encore une fois. Votre énergie, on sent les muscles qui s'activent quand vous nous présentez tout ça. Merci beaucoup, Émilie Bouchard-Labonté de Sportcom.
Bonne journée.
Bonne journée. Pour avoir plus d'informations sur les intervenants et les organismes qui viennent ici, visitez la page de l'émission Accès libre, repérable sur la page canalm.vusezvoix.com. Vous le savez aussi, les gens qui sont venus à l'émission sont trop nombreux, je ne peux pas les nommer, mais je peux au moins rappeler à quel point Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde est excellent et Christiane Campagna aux communications nous aide avec autant de bonheur. Ici Benoît Racette, on se reparle la semaine prochaine. Espérons que nous ferons ensemble, d'ici là, des élections qui pavent la voie vers un accès libre.